Donc on va commencer, on est à Perek la Tête. Vehine Strar Mitzvah Mitzvah.
C'est bon, bah c'est pas que fini, hein,
Ouais, c'est Perek la Tête, ouais. On est parti vite, c'est Perek la Tête. Vehine Strar Mitzvah Mitzvah. Alors, ici c'est là. Donc Vehine Strar Mitzvah Mitzvah, je vais juste faire un petit point pour expliquer où on en est. On a commencé à expliquer dans le Perek la Tête. À la suite du Perek la Maîtresse, dans lequel on avait expliqué la différence entre la Kavana instinctive et la Kavana analysée. Mm-hmm. D'ailleurs, on va revenir à la fin de ce chapitre, aujourd'hui si Dieu veut, sur le concept de la Kavana analysée et la Kavana instinctive. Okay. Donc à la suite de ça, on a expliqué les différents niveaux, les différentes manières de servir à Kadosh Baruch Hu qui pouvaient correspondre aux quatre mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. On a expliqué que Asiya, c'était quand on faisait une mitzvah sans Kavana. Yetira, ça correspondait à quand on servait à Kadosh Baruch Hu avec la Kavana instinctive. D'accord? Ensuite, on a expliqué que Bria, c'était le travail des Tzadikim. Comment les Tzadikim servaient à Kadosh Baruch Hu quand ils le servaient avec la Kavana analysée. Et on a dit qu'il y avait le travail des grands Tzadikim, qui eux, les grands Tzadikim, atteignent le niveau de Atzilut. D'accord? On a expliqué le concept de Merkava, etc. Ça, tout ça, on a expliqué la semaine dernière. Je voudrais juste me faire un petit point sur le... Parce que là, on a fini de parler des quatre mondes. Juste un petit point sur le concept des quatre mondes. Quand il faut pas faire l'erreur de croire que quatre mondes, c'est comme ce qu'on aurait dans un jeu. Dans un jeu, on a quatre mondes, c'est-à-dire que les quatre mondes sont distincts et différents. C'est quatre niveaux.
Il faut d'abord passer par le monde précédent pour arriver au suivant.
Et que bon, et qu'un monde n'a pas forcément de rapport avec l'autre. C'est seulement qu'avant de passer au quatrième, il faut passer par le premier, le deuxième, le troisième. Mais c'est des mondes différents. Là, c'est pas du tout une bonne traduction en vérité monde. Il faudrait traduire ça plutôt par dimension. Pourquoi je dis qu'il faut traduire ça par dimension? Je te donne un exemple comme ça, que j'ai déjà donné la semaine dernière à Yaakov. J'entends un exemple comme ça. Il dit qu'en vérité, on a le concept de comment un Kadosh Baruch Hu, il nous dévoile certaines choses dans le monde, d'accord? Dans la biologie, etc. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous dévoile certaines choses? On voit comment en vérité ça peut nous servir dans notre travaux d'attachage. Par exemple, le concept, d'accord? Le concept des atomes.
Oui.
Quand on prend un objet, on va prendre un verre, voilà, j'ai un verre en plastique qui est devant moi. Je le pose. Il ne bouge pas, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Très bien, ça c'est assis. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est ça les quatre mondes. C'est juste pour montrer que dans notre vie, on peut comprendre ce concept-là. Maintenant, si après je veux regarder un peu plus loin, je vais retrouver les atomes, comme ça on dit, atomes,
les molécules.
Bon. Donc je vais voir qu'il y a une activité. On est bien d'accord? Je vais voir qu'il y a une activité. C'est-à-dire je vois que ce que je croyais inerte, la pierre que je croyais inerte, en vérité ça bouge dedans. Ça bouge. Très bien. Ensuite je vais aller encore plus loin et je vais retrouver les photons, tu m'as dit comment ça s'appelle?
Les quarks, ça s'appelle les quarks.
Oui, d'accord, moi, c'est juste pour donner l'exemple. Les quarks.
Oui, donc c'est pour arriver aux quatre, c'est les quatre.
Et là, non, pas du tout, parce que c'est hors jeu. Et après, je vais arriver aux quarks. C'est quoi les quarks? Les quarks, tu vois même plus des molécules, tu vois plus des atomes, tu vois de la lumière, c'est tout ce que tu vois.
Particules de lumière.
Donc là, c'est-à-dire le même verre qui était là, qui était inerte, la même pierre qui était inerte, je vais la regarder avec la dimension des quarks et je vais retrouver de la lumière, alors que je vois pas de lumière ici. C'est le même verre, hein. Et après, ça en vérité, ça pourrait être un exemple pour quand on dit les trois mondes. Atzilut, non, parce qu'Atzilut, on l'a dit, c'est hors-jeu. D'ailleurs, il va le répéter encore une fois. Atzilut, c'est carrément, on peut même pas comprendre. Bon. Donc, on va juste se focaliser sur les trois derniers. Bria, Yetzira, Asiya. En vérité, il faudrait traduire ça au lieu de monde, il faudrait traduire ça par dimension. Parce que là, on a vu, dans l'exemple que j'ai donné, c'est le même objet, mais ça dépend avec quelle lunette tu le vois.
D'accord.
Donc, on a le même objet, ça dépend comment tu le regardes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc c'est pour ça, avec ça on comprend comment la même mitzvah peut être accomplie par un grand tzaddik, par un tzaddik normal, par une personne standard et sans kavana, comment la même mitzvah peut être accomplie et à chaque fois elle aura un impact différent. Pourquoi? Parce que chaque fois la mitzvah aura une dimension différente. Très bien. Vehine, srar mitzvah mitzvah. On va s'arrêter ici, faire un clamaté. Là on va reprendre un concept qu'on a expliqué, dans Perek Lamed Zayin, chapitre 37. Je vais expliquer un concept qui est très très fort, que en vérité c'est seulement maintenant qu'on va vraiment le comprendre. On avait expliqué que Veinestra Mitzvah Mitzvah, comment on explique ce qui est écrit dans Pirkei Avot, que le salaire d'une mitzvah est une mitzvah, ça veut dire quoi? L'expliquer l'Admor HaZaken, ça veut dire que la mitzvah c'est elle qui crée la réalité. et que le salaire de la mitzvah est la réalité qui va être créée par ma mitzvah. Ça, c'est en deux mots ce qu'avait expliqué Admor HaZaken dans Perek la Metzayin.
Répète le coup du salaire et de la mitzvah.
Ça veut dire comme ça. Le concept que Admor HaZaken avait expliqué. Je cherche la page pour Yaakov.
C'est bon, mais ça va être un comparatif, attention. Un comparatif.
Ça, mitzvah, atma.
Attends, c'est ça, c'est des chips. C'est des ch'touilles.
Voilà, ici.
Ça met un peu chez toi.
Ah, Michou, voilà, ici. Rar mitzvah. Ici.
Par mitzvah.
Donc, le concept, le salaire d'une mitzvah est la mitzvah. Ça veut dire quoi hein? Ça veut dire que l'Admor HaZaken très très difficile à comprendre.
Voilà.
Et il y a plusieurs manières d'expliquer. Il y a Rashi qui explique, il y a Barthénoura qui explique. Là, on a expliqué la manière que l'Admor HaZaken expliquait selon le Zohar. Et qu'est-ce que c'est le sens de Srar mitzvah? Ça veut dire que le salaire d'une mitzvah est la réalité qui est créée par la mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je crée une réalité dans le monde. Et quand ma chair va venir, ou bien quand je vais aller au Gan Eden, le plus grand profit que je peux avoir, c'est de profiter de cette réalité que j'ai créée.
Ah,
comme on a donné l'exemple la semaine dernière, que quand je fais une mitzvah, j'envoie une flèche, et cette flèche, elle monte, sans fin, ça s'arrête jamais. Et le plus grand salaire que je peux avoir, c'est que je profite de ce salaire-là. Sera un mitzvah.
Alors. Je me rappelle si on avait déjà répondu à cette question, mais sinon on est proche du machiar, donc on ne peut pas vraiment profiter par rapport aux autres qui profitent depuis des millénaires.
Non, au contraire, le vrai profit, c'est quand le machiar va venir.
Okay,
ils sont en stand-by, c'est les autres.
Disons que, non, c'est en stand-by, mais n'empêche qu'ils profitent de ça et de ça, donc quoi, au final, ils ont plus de... Qui a plus de mérite? Enfin, qui a plus de... C'est mieux de te dire que tu as vécu il y a 2000 ans, et que les mérites que tu as fait, ça te permet de vivre un monde pas si mal que ça.
Quand tu rentres en touche, quand tu quoi? Ça t'en vaut mieux. Mendy, après, je veux pas t'en touche.
Ça c'est vraiment. Moi je pense d'après ce qu'on a expliqué, d'accord, dans Perek Lamedzaï, on a expliqué que le but c'est Mashiach.
Oui.
Que les tzadikim ils sont seulement en stand-by. Et que les tzadikim quand ils nous voient en train de faire des mitzvot, ils sont jaloux. D'accord. Bon. Ça c'est premièrement. Bon, ça, les tzadikim ils sont jaloux de ce qui se passe. Ils sont jaloux de ce qu'on est en train de faire ici. Mis à part ça, ça c'est pas nos khashbonot. On peut pas venir nous maintenant et dire un khashbon pourquoi moi j'ai pas été à l'époque du Beit HaMikdash. Ah moi, j'aurais bien aimé faire la sacrifice.
Tu as été de toute façon, hein, forcément. Hein.
Oui, d'accord. Peut-être tu, peut-être non.
Oh, ça m'étonnerait.
Pourquoi?
C'est très étonnant.
Peut-être tu, peut-être non, excuse-moi, là c'est complètement faux.
Ah bah c'est une Neshama neuve, toi alors.
Pas du tout, mais peut-être ma Neshama a démarré à Milan.
Alors c'est bien ce que je disais.
Donc,
ou...
c'est pas... ouais, donc j'étais pas à l'époque de Tamikdash.
Allez, admettons, d'accord.
D'accord. Non, okay.
Oui.
Enfin, moi c'est comme ça que je vois la chose, que ça c'est les calculs de la Kadosh Baruch Hu. Maintenant peut-être il y a une autre réponse, on perd une autre réponse je crois.
Non, moi je propose simplement qu'on discute pas un temps limité devant l'infini, donc ça n'a pas de valeur.
Ouais, mais c'est une question qui n'a
pas de valeur. C'est-à-dire l'histoire qu'on va rester un peu plus ou un peu plus, c'est du temps. Par rapport au temps limité, c'est...
Non, mais lui, ce qui veut dire, Gamliel, c'est que nous, on va peut-être même pas passer du tout par cette phase-là.
Ça ne veut rien dire. Quel que soit le temps qu'ils sont passés, même s'ils sont passés quoi, Bonaguide, on se met dans notre monde et on se dit que le premier qui a eu droit à une mitzvah et profité dans le Gan Eden en attendant du Olam Haba, il est depuis 2000 ans.
Ouais.
Depuis 2500 Matan Torah, où il y a les mitzvot. 2500 ans,
c'est rien.
Mais sur l'infini, c'est zéro, battel be zéro. Il le sait en mathématiques, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune commune mesure. Donc ça rentre pas, c'est pas une question.
Oui, bon.
C'est pas une question.
Il y a quand même une phase par laquelle, on va pas passer.
Oui,
si ma chère vient tout de suite.
Si on imagine... Mais si on imagine que le but, il est effectivement le
voilà, c'est du stand-by.
Donc, un, non, mais ce stand-by, il est...
Il vaut rien.
Batel Bechim. Batel B...
Plus que Bel.
Ensof.
Ouais.
Et donc ça va, c'est pas une question, c'est
donc,
une question dans le repère, pas dans la réalité.
Vehine sera mitzvah. Donc le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. Pirouche, ça veut dire. Là, l'Admor HaZaken, il va reprendre le concept de la kavana analysée et la kavana instinctive. Sera mitzvah. Pirouche, ça veut dire. Shemisrara nedam mauta ou madrigata. Selon le salaire de la mitzvah, c'est comme ça qu'on va voir l'essence de la mitzvah et le niveau de la mitzvah. C'est-à-dire, si quand moi je fais une mitzvah, j'arrive qu'au monde de Yetzira. Alors que le tzadik, quand il fait sa mitzvah, il va arriver au monde de Bria. Et le grand tzadik, il va arriver à quel monde? Au monde de Atzilut. Tu vas me dire, bon, c'est que du salaire, ça.
C'est le grand tzadik.
D'accord, le grand tzadik. Ouais, ça, c'est la semaine dernière.
Non, je veux pas discuter.
C'est des spéciaux.
Donc, ça...
C'est vrai que l'Admour, il parle du tzadik amour, mais
tu vas me dire, ça, c'est tzadikim Magdolin, comme ça, il a dit.
C'est une autre notion que
Tzadikim comme
Avraham Avinu. C'est une autre notion que Tzadik Amour.
Oui, notre notion, ouais. C'est des mondes différents. C'est hors jeu. C'est même pas le même jeu que nous. On n'est même pas capable d'analyser. Donc, Vehin Eschar Mitzvah Mitzvah. Pirouche, ça veut dire chez Mistrara Neda Mauta ou Madregata. Par le salaire d'une mitzvah, on peut savoir l'essence de la mitzvah. Si un Tzadik, par exemple, quand il fait une mitzvah, il arrive à monter plus haut, c'est pas simplement le salaire qui est différent. Ça veut dire que, en vérité, sa mitzvah monte plus haut. La mitzvah est très très forte. C'est que le salaire est seulement l'impact direct, le résultat de son travail.
D'accord.
Mon Razakim, il dit tout de suite, il dit, moi je ne veux pas vous parler maintenant du travail des grands tzadikim, ceux qui sont à Tzilut. Ça, en la nous essek benistarot. D'accord, ça c'est pas, ça c'est hors jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure.
C'est une catégorie qui existe, mais que personne ne peut en parler.
Ça c'est hors jeu, ça c'est... En la nous essek benistarot. Shem tzadikim agdolim.
Voilà.
Shem uprinat merkava. Rak aniglot lanou shacharem koladam imshor.
Ils sont là les livres, monsieur.
Puisque l'admor Hazaken, c'est ici le Sefer Shel Beinonim, c'est le livre des Beinonim. Ça veut dire on parle seulement aux choses qui sont accessibles. Et avoir le niveau des tzadikim agdolim, des grands tzadikim, il faut avoir une neshama, il faut avoir une neshama particulière pour ça. D'ailleurs, avec ça, l'admor Hazaken explique dans d'autres endroits qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu a vu, ça l'agmara dans Tani, si je ne me trompe pas. Elle dit que Akadosh Baruch Hu a vu le nombre de tzadikim, que le nombre de tzadikim était très limité. Alors, Amad Veshtal An Bechol Dor Vador, il les a plantés dans chaque génération. Parce qu'il a un nombre très limité. Alors, on pose la question, mais pourquoi un nombre très limité? Il y a beaucoup de tzadikim, c'est quoi un nombre très limité? Ah, justement. Qu'est-ce que c'est que l'Admor Hazaken? Il dit qu'on parle des grands tzadikim. C'est quand on est des grands tzadikim, c'est des tzadikim comme Avraham Avinu, comme Moshe Rabbeinu. Et ces tzadikim-là, il y en a très très peu. Et Akadosh Baruch Hu les a répartis dans toutes les générations. Alors cette tzadikim là, ça c'est quelque chose que si moi je veux devenir un tzadik comme ça, je peux pas. Si ma neshama n'est pas conçue pour, je peux pas. Impossible. Ah, c'est pratiquement impossible. C'est où tu nais avec la neshama, ou tu n'es pas avec la neshama. Ça veut dire où tu nais avec la neshama qui est capable de monter à la dimension d'Atilut, ou tu peux pas. C'est moi je suis pas compatible avec ça. Peut-être Yaakov. En lanu eslek venistarot shem tzadikim agdolim shem kirat merkava. Rakaniglot lanu shachareem koladam yushar. Donc on va parler nous des niveaux qui nous concernent. Les niveaux qui sont en dessous. Kavana instinctif, kavana analysé. Et là on va reprendre ces concepts là. Une fois qu'on a expliqué tout ce qu'on a dit maintenant, le concept des quatre mondes, maintenant on va beaucoup mieux comprendre le concept de kavana instinctif, kavana analysé. On va expliquer l'importance de la kavana, du lishma, beaucoup de choses très intéressantes. Leidan et mana, mahut ou madregat avodat hashem, bitrilu chimu, beit galut libo. Donc on va parler maintenant de servir à Kadosh Baruch Hu par les deux types de kavana, kavana instinctive et kavana analysée. On va d'abord parler de la kavana analysée. Kavana analysée, comme il explique ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire je sers à Kadosh Baruch Hu avec un amour qui est dévoilé dans mon cœur. Ça veut dire quoi un amour qui est dévoilé dans mon cœur? C'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose qui est au fond de moi, que je sais que je suis juif et que je dois faire la chose. C'est dévoilé. Il va expliquer ce que ça veut dire. Anim shachot mina bina veda bigdolet ensav baruch. Comme on a expliqué il y a trois semaines, que ça provient de la hitbonenout, de la réflexion. Je réfléchis à l'importance d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Dieu amène dans ma vie. Je réfléchis, et à un certain moment, il y a un clic qui se passe, et là, je sens que mon cœur part avec. Donc, je vais craindre Dieu, et je vais aimer Dieu. Et on a expliqué que dès qu'on atteint ce moment-là, toutes les mitzvot qu'on va faire vont être avec cet entrain-là, que j'ai envie de faire plaisir à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi au fait que je suis très très loin d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une kavana, c'est ce qu'on appelle la kavana analysée. Ça veut dire je vais réfléchir, et il y a un sentiment qui va se créer, un sentiment qui est dévoilé, que je sens. On va expliquer tout de suite la différence. On va expliquer qu'il y a des sentiments qu'on sent et des sentiments qu'on ne sent pas. On va dire tout de suite. Donc, mekoma beyutsirot debria. Là dans ce cas-là, mekoma beyutsirot debria. Quand c'est une kavana analysée, on arrive aux 10 sirot debria, ça veut dire c'est le niveau des tzadikim. Va'avoda bitrilu chimu ativim chez Bemocho. Alors que quand on sert à Kadosh Baruch Hu avec l'amour et la crainte ativim, naturel, comprenez, instinctif, chez Bemocho, biyutsirot de Yetira. Là, on atteint uniquement le niveau des 10 sirot de Yetira, c'est-à-dire le monde d'en dessous. Alors comment expliquer la différence entre, ici il nous a parlé d'amour et de crainte instinctif et amour et crainte analysée. Comment on peut expliquer ça dans la vie de tous les jours? Comment on peut donner un exemple illustré pour comprendre ça? Alors Rav Stanzas, il a un exemple très simple. C'est un exemple très simple, surtout, voilà, aujourd'hui c'est d'actualité. Il dit, il y a des gens dans le monde qui ont peur, qui ont très peur, qu'un jour il y aura une guerre mondiale, dans laquelle un fou, il va utiliser l'arme nucléaire et il va détruire le monde. Il y a des gens qui ont peur de ça. Il y a des gens que vous leur parlez, ils ont peur de ça. C'est-à-dire que dans leur tête, d'accord, quand ils marchent dans la rue, etc., au fond d'eux, ils se disent, je sais pas, il est pas tranquille, il sait pas quand ça peut arriver, il dit maintenant, il y a Ahmadinejad du marché qui est en train de fabriquer sa bombe atomique, on a peur, on n'est pas tranquille. Ça c'est une première type de peur. Deuxième type de peur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui marche, un exemple, hein, c'est un exemple israélien, mais bon, c'est quelqu'un qui marche dans un champ, dans un champ miné.
Et des figues.
Miné. Avec des mines. Ça veut dire qu'il sait que chaque faux pas peut lui coûter sa vie. A priori,
la même chose que la
bombe a priori,
a
priori, là aussi, il a peur. Il a peur d'y partir.
Dans ce cas-là, tout le monde a peur. La bombe,
seulement, seulement, quelle est la différence? Attends, justement. Avec ça, le Rav Stenzas explique de manière très simple. Il dit, ça, c'est la différence qu'il y a entre l'amour et la crainte naturelle, instinctif, et l'amour et la crainte analysée.
Ah, oui.
Il explique, c'est très très simple. Il dit comme ça. Il dit que, quand la personne a très peur de la, quand la personne a très peur de la bombe nucléaire, c'est vrai qu'il a peur, mais c'est, ça reste que dans la tête, il le sent pas dans le cœur. Il sent pas dans le cœur, pourquoi? Parce que c'est pas proche de lui. Ça veut dire, il doit s'expliquer constamment que c'est dangereux. C'est pour ça qu'à un certain moment, il peut oublier que c'est dangereux, et constamment, il doit se rappeler, mais non, c'est dangereux, ça peut arriver. Celui qui marche dans un champ miné, faites-moi confiance, qui flippe, il tremble.
Voilà, il tremble.
Il tremble, il a peur.
C'est
la différence entre ira et parhad.
Voilà.
En français, on aurait dit, entre la crainte et la peur. C'est ça? La crainte et la peur. Et je crains quelque chose, ce que je craignais est arrivé. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la crainte, c'est lointain, et elle a peur, j'ai peur. Et comme il explique longuement ici le Rav Stenzas, il dit, c'est pas parce qu'une personne a la crainte que c'est pour ça que son comportement va changer. Quand j'ai peur, quand j'ai très peur dans le champ miné, je fais très attention, je vais marcher doucement, et c'est instinctif, je suis obligé de faire attention où je marche. Même pas si ça va venir en esprit de marcher comme si de rien n'était. Mais quand c'est une crainte, je veux dire, bon, c'est pas grave, quand ça viendra, s'il met ça bon, il met ça bon. Il y a un autre exemple, qui peut concerner les fumeurs.
Ah non.
Vous allez parler à n'importe quel fumeur.
C'est une chose.
Ça. Non, c'est pas moi, c'est lui.
Pas de fumeur.
Un mec qui conduit en voiture, c'est mieux.
Il donne un exemple très simple. Il dit, vous prenez un fumeur standard. Un fumeur standard. Il sait très bien, d'accord, il sait très bien que ce qu'il fait, c'est dangereux. Que quelque part, il finira par payer ce qu'il est en train de faire.
Peut-être que oui, peut-être non.
Bon, excuse-moi. Normalement.
C'est marqué sur la boîte de cigarettes. Hein.
Fumer tue. Vous avez écrit.
Ah, et il tue aussi le porte-monnaie.
Oui.
Oui, mais il y a marqué aussi. Alors, la télécommande.
Là, c'est...
La télécommande.
La télécommande. Ouais. Hein, et encore, qu'est-ce qu'il y a encore marqué?
C'est, cerveau, je sais pas quoi, il y a un truc.
Le cerf-volant.
Ouais, non, cerveau, système, cerveau, je sais pas quoi.
Bon. Donc... Quand quelqu'un, vous prenez un fumeur standard,
oui.
il sait que fumer c'est pas bien.
C'est la fin du monde.
Mais c'est pour autant, c'est pas pour autant hein, qu'il va s'arrêter de fumer. Pourquoi il va pas s'arrêter de fumer? Parce que même si au fond de lui il sait, et quand on va lui dire, même quand au fond de lui il sait, seulement c'est seulement une crainte, c'est pas une peur. S'il avait peur, la preuve c'est quoi? C'est que quand le médecin va lui dire, monsieur, vous êtes en train, Dieu préserve, d'attraper le cancer, et si vous arrêtez pas tout de suite de fumer, eh ben vous risquez d'y passer très bientôt. Il va s'arrêter. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? C'est qu'il est passé de la crainte à la peur. C'est plus lointain, c'est devenu proche. La crainte, c'est...
Rapprocher.
C'est proche.
Non, ce que je veux dire, c'est le contraire, en tout cas. Ce que je veux dire, la crainte, c'est loin.
C'est rapproché.
Ah oui, d'accord, j'ai entendu. La crainte, c'est rapprocher avec C. D'accord. Donc...
C'est une prise de conscience, en fait.
Alors, c'est quoi le concept de prise de conscience? C'est exactement la différence qu'il y a entre la kavana instinctive et la kavana analysée. La kavana analysée, le niveau des tzadikim, c'est quoi hein? C'est que eux, pourquoi ils risquent même pas de faire une avera? Pourquoi? Parce que pour eux, c'est comme si ils sont en train de marcher dans un champ miné.
Ils ont peur tout le temps.
Donc, t'as pas besoin de leur expliquer, de se rappeler constamment qu'il faut faire ci, il faut pas faire ça. C'est instinctif, c'est normal qu'il faut le faire. Personne va se mettre, il tremble, il a peur. C'est pas instinctif.
Naturel.
D'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose qui vit avec ça. Et là, on est, comme
naturel,
on a expliqué.
Oui.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on a expliqué? Après, on peut faire un contre-sens.
Parce qu'on peut mal comprendre. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On avait expliqué qu'une personne, en vérité, c'est un niveau qui concerne les tzadikim, parce que les tzadikim ont ça toute leur vie. Mais ça peut nous concerner aussi à nous pendant certains moments de notre vie. C'est pour ça que l'Admor HaZaken, il amène ça dans le Tania, qui est un sefer chez le Benonim. Livre des Bénonim. Parce que ça peut concerner tout le monde, certains moments. On a tous des moments comme ça, dans lesquels on se sent inspiré, et tellement on se sent inspiré, que tout ce qu'on fait, d'accord, c'est avec, ça veut dire, c'est pas que je fais une avéra parce que je réfléchis que je dois pas faire l'avéra. C'est normal, c'est comme je suis dans un champ miné, je fais pas l'avéra parce que je peux pas faire, c'est tout. J'ai peur de le faire. Et je fais une mitzvah parce qu'il faut faire la mitzvah. D'accord. Mais, dans la majorité des cas, on ne rentre pas dans cette catégorie. Dans la majorité des cas, on rentre dans la... Et ça serait bien, dans le meilleur des cas, on rentre dans la catégorie... C'est pas qu'on craint, on a peur de faire une mitzvah, on ne tremble pas de faire une mitzvah. C'est qu'on se le rappelle constamment. Un petit peu comme la bombe d'Ahmadinejad. D'accord. Je sais que ça peut venir, je sais qu'il y a un jour, il y aura un grand jugement, donc je me le rappelle constamment. Ça s'appelle une crainte.
Et celui qui fait la mitzvah par habitude, alors
c'est on va parler. On va parler de ça. Là, pour l'instant, on parle
des... français,
là, on parle de Kavana.
Non, je fais jamais ça.
Aval, mais...
Je connais.
C'est pas du jeu, c'est pas du jeu.
Je connais. Tu prépares et tu comprends.
Aval, mais... Donc, il continue ici. Aval, avoda, blis, bliotorio. Donc là, on a expliqué la différence qu'on a expliqué entre les deux niveaux, entre la Kavana, donc Kavana instinctive, Kavana analysée. Dire quoi? Ça veut dire entre la personne, donc on va dire entre le champ de, entre celui de la peur quand tu marches dans un champ miné et entre la crainte de la bombe d'Ahmadinejad.
Oui.
D'accord? C'est pas du tout la même chose.
Mais c'est bizarre comment tu dis analyser. Je comprends ce que tu dis, mais finalement le mot analyser il va pas quoi.
Non, parce que la Gemara Zakel nous a donné un principe, il a dit que ce type que
le réfléchit plutôt.
Réfléchit peut-être, oui. Cette crainte-là peut venir seulement si tu, quand la personne
au départ,
réfléchit.
Au départ.
Non, toujours. Faut toujours réfléchir.
Oui, au départ.
Bien sûr.
C'est ça, ouais. Oui. Volonté
alors,
cérébrale.
Voilà. Oui, mais alors après, il a peur, il tremble. Donc ça rentre vraiment dans le corps, ça.
Bien sûr.
Plus loin que
mais c'est provenu de la tête.
Oui, d'accord. Voilà. Mais l'analyser, on pense que ça reste dans la tête, on a l'impression.
D'accord, mais réfléchis peut-être.
Longtemps, même si maintenant il a peur à un moment, mais il n'a pas peur tout le temps.
Conscience, je dirais conscience.
C'est pas quelque chose qui prend aux tripes, hein. Ça commence par le cœur.
Oui, d'accord.
L'autre, elle commence par le cœur, elle monte à la tête, on dirait toujours tu mets les pieds.
Donc ça, c'est le deux types de cavana qui peut exister. Avalme, avoda, plitor, trilochimou. Quand on sert à Kadosh Baruch Hu sans aucun réveil d'amour et de crainte, à fil ou bémocho, donc on va arriver à ce que tu parlais, Yaakov. À fil ou bémocho, prinat gilou, daïnou, l'horaire a avativit am souterret velev, l'otsiam elem va ester à lev, el a gilou. Dit, mais quand une personne arrive à un niveau qu'il a ni la crainte instinctive, la crainte et l'amour, ni la crainte et l'amour instinctif, ni analysé. C'est comme par exemple, comme je vais donner des exemples, je fais la mitzvah, pourquoi je fais la mitzvah? Parce que j'ai l'habitude de la faire. Mais alors, ni je pense pas. Ni je pense à la bombe d'Ahmadinejad, ni je pense pas. Je fais parce que j'ai l'habitude. Je pense pas à ce que je suis en train de faire. Je ne réfléchis pas à ce que je suis en train de faire. Et là, on va développer plusieurs catégories d'une mitzvah qui n'est faite d'une manière qui n'est pas l'ishma. L'ishma, c'est-à-dire quand je fais pour la mitzvah, je fais pour Dieu. Et chez l'eau, l'ishma, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. A filou be mochov et alumotu bal kopanim, rak shei nish eret, mesu teret balef ketodata, kemo shaita kodem avodata. Donc, si une personne, quand il fait une mitzvah, a ni la kavana, on va dire, bon, je vais garder les mêmes termes que j'avais avant,
oui.
Ni la kavana instinctive, ni la kavana analysée. Il a rien du tout. Pourquoi il fait la mitzvah? Il fait la mitzvah parce qu'il a pris l'habitude de la faire. Enfin, cette personne-là, aré à vodazo, nisheret, le mata, bola, ma pirou, d'un ikret, ritenuit à la mort. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que, quand j'ai fait une mitzvah avec une kavana basique, c'est-à-dire que bon, je me rappelle que, par exemple, je fais la tefila, je donne un exemple qui peut nous concerner. Je fais la tefila, c'est pas que je sens que je suis en train de prier à Dieu. Mais, on va dire que je réfléchis au fait que normalement, je devrais maintenant sentir que je suis en train de m'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est lointain, mais je pense à ça. Ça, c'est la kavana du bas niveau. La kavana de haut niveau, c'est quand tu le sens, ça fait partie de toi. Mais il y a le niveau qui est il y a un niveau dans lequel j'ai pas du tout de kavana. Ça, c'est assis. J'ai pas de kavana, ni je réfléchis, ni je réfléchis pas. J'ai rien fait de négatif. Parce qu'attention, on peut avoir un point négatif. Comme il va dire après, je peux étudier pour devenir un rave, par exemple. Ou pour avoir des connaissances. Là, ça devient négatif.
Négatif?
Oui, négatif.
Pour étudier pour avoir des connaissances?
Mais
ça devient négatif.
C'est contradictoire, parce qu'on dit qu'au départ, c'est...
On n'a rien dit, on va dire tout ça. Juste, il y a un point, c'est négatif. Ça peut se récupérer, mais c'est négatif. J'ai pas dit c'est mauvais, j'ai dit c'est négatif.
Non, on dit souvent, on commence par intérêt, puis après, plus progressivement...
Kemosh, donc, rak inish eret, mais sous teret de lev katolata, kemosh aita kodem avodata. Aré, avoda zonish eret le mata bolama piro nikret ritsenut alamot. V'en bakoach la lot velikalel bihudu it barin shenet asurot akdoshot. Qu'est-ce qu'il a dit la Gemara Zaken? Il a repris la phrase du Pirkei Avot qui a dit Schar mitzvah, mitzvah. Le salaire d'une mitzvah est la mitzvah. C'est-à-dire que le salaire d'une mitzvah est une réalité qui est créée par ma mitzvah. Et une personne qui fait une mitzvah sans kavana, sa mitzvah reste bloquée en bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire que sa mitzvah reste bloquée en bas? Alors la Gemara Zaken, tout de suite, il amène une référence d'abord. Parce que c'est très fort ce qu'il dit. Une mitzvah sans kavana, apparemment, elle reste bloquée en bas, elle peut pas monter. Moi, chez Katou, Betikuni. Ainsi qui est écrit dans le Zohar. Parti dans le Zohar, qui s'appelle Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar dans Tikkun Yud. Dixième Tikkun de Tikkuné Zohar, c'est écrit comme ça. Des blotrilou chimou, l'opacha leela. Que sans, quand on fait une mitzvah sans amour et sans crainte, quand, encore une fois, quand je dis sans amour et sans crainte, ça veut dire sans amour et sans crainte du tout. ni instinctif ni analyse. Je fais une mitzvah parce que j'ai l'habitude de le faire. Comme je me brosse les dents tous les matins, je fais la tefila. Mais non, ni je me suis rendu compte que j'ai commencé la tefila, ni je me suis rendu compte que j'ai fini la tefila. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit qu'une mitzvah qui est faite sans amour et sans crainte, elle ne peut pas monter en haut, littéralement par ça veut dire s'envoler en haut. Velo yachla les salka ou les mikam kadam Hashem. Elle ne peut pas s'en aller et venir kodam Hashem devant un kadosh baruch. Ça, c'est ce qu'il dit le Zohar. D'ailleurs, c'est une notion qu'on expliquera longuement en Bezrat Hashem dans le chapitre 41. Il expliquera une autre notion du Zohar. Le Zohar dit que l'amour et la crainte, c'est les ailes d'une mitzvah. Gadfin. Gadfin en araméen, ça veut dire les ailes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a en train de dire aussi à Moïse? D'ailleurs, en passant à ce propos, il y a une histoire qu'on raconte. Qu'une fois, quand l'Admorazaken, Morazaken, il était de passage dans une ville, en Biélorussie. Et donc, quand il arrive à la ville, la première chose qu'il fait, c'est qu'il rencontre le rav de la ville. Il s'appelait Rav Yehoshua Zislin, je crois, le nom de famille, j'ai oublié. Rav Yehoshua. Bon. Donc, il va voir le rav de la ville. Il s'avère que le rav de la ville était loin d'être un chassid. C'était un mitnaged.
Ouh, ça va chauffer.
Alors, un mitnaged.
Mitnaged, c'est la guerre.
Alors, non, bon, mais c'était une époque quand même, c'était à la fin de la ville de Morazaken, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un certain terrain d'entente.
Ça veut dire quoi?
Mitnaged, ça veut dire que c'est un opposant au chassidisme. Alors, Admorazaken, il vient le voir.
Ah, un indifférent, hein. Un opposant. Hein. Si t'es dans la même rue, ça fait dur.
Admorazaken, donc, il va le voir. Et Rabbi Yehoshua, directement, il lui dit, je veux pas vous voir. Bon. Alors, Admorazaken, est-ce que je peux vous parler? Est-ce qu'on peut parler quelques minutes? Il lui dit, bon, alors, avant de me parler.
Envoie-moi des SMS.
D'accord. Il lui dit, dites-moi d'abord combien de fois il y a écrit, combien de fois Rava parle dans le chasse.
Du style, est-ce que tu as l'ordre?
Voilà, du style, ça veut dire, est-ce que tu sais apprendre?
Est-ce que tu as à la part de faire tes studios de...
Et l'Admorazaken, il lui répond un nombre. Alors le Rav il dit, mais vous avez oublié un? Alors Admorazaken, il dit, non, j'ai pas oublié, je sais lequel vous pensez, mais moi je suis là, dans cet endroit là-bas que vous pensez, moi je suis les Agaot Abar, la correction du Bayit Radash, et lui, dans cet endroit là-bas, il dit pas Rava, mais il dit Rabba. Bon. Très bien, bon, ça va, tu sais, prends malin, vas-y, qu'est-ce que tu veux?
On peut parler.
Alors, le Rav Yehoshua, il lui dit, écoute-moi bien maintenant, avant que toi tu parles, moi j'ai une question à te poser. Et, tu sais ton livre, là, le Tania, que tu as fait? J'ai étudié, j'ai vu ce que tu as dit. Et là-bas, dans Pérec la Tête, notre chapitre, tu dis là-bas, hein, que une mitzvah qui est faite sans amour et sans crainte ne peut pas monter en haut. Il dit, d'où tu sors ça? D'où tu sors ça? Qu'une mitzvah qui est faite sans amour et sans crainte ne peut pas monter en haut. Où tu sors ça? Où c'est écrit ça? Alors, Admorazaken, il dit, qu'est-ce que tu veux? C'est écrit un Tikkun Ezor.
On
vient de lui voir. Alors, il lui répond, le rabbi dit, non, mais nous, on fait pas de psak du Zohar. Nous, on fait pas de psak à l'acha du Zohar. Moi, je veux Gemara. Nous, on veut que la Gemara. Bon, Admorazaken dit, si vous voulez la Gemara, on va vous trouver une Gemara. Il lui dit, il lui répond comme ça, c'est écrit dans le traité Baba Batra, si je me rappelle bien. C'est écrit comme ça. Toujours Rava, d'ailleurs. C'est écrit Rava Rame. Rava, il pose une question. C'est écrit dans Tehilim, il y a un verset dans Tehilim qui dit « Ki gadol me'al shamaim chasdera ». Que ton kavod est grand, « me'al shamaim », ça veut dire « au-dessus du ciel ». Bon. Il y a un autre verset qui dit, d'accord, qui dit « Im esak » comment il dit ?« Im esak shamaim shamata ». Enfin, il y a un autre pasouk à Gemara, elle dit, dans lequel on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il arrive que jusqu'au ciel, mais il ne dépasse pas le ciel. Je crois que c'est « Im esak shamaim shamata ». Alors la Gemara pose la question, elle dit, il faut se décider. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il est au ciel, jusqu'au ciel, ou est-ce qu'il dépasse le ciel? Donc Rava, il pose la question. D'accord? Et qu'est-ce qu'il répond Rava? Rava, il répond, il dit, Ela, kan beoskim lishma. Kan beoskim shelo lishma. Alors, il a répondu, il va montrer comment c'est écrit dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il répond à la Gemara? La Gemara dit, indifférence. Quand une personne sert à Kadosh Baruch Hu lishma, lishma, ça veut dire, donc, comme il va expliquer Admor Hazaken ici, ça veut dire avec crainte et amour, là, c'est me'al shamaim, c'est au-dessus du ciel. Et quand c'est pas l'ishma, ça veut dire c'est sans amour et sans crainte, là ça reste ad shamaim. Et là quand Rabbi Yehoshua il a entendu ça, parce que c'est vrai que la manière comment c'est formulé dans la Gemara, on comprend pas tout de suite, d'accord, parce que la Gemara a fait la différence entre l'ishma et pas l'ishma, pour le nom de Dieu, pas pour le nom de Dieu. Mais c'est vrai que quand on approfondit, on voit qu'en vérité la Morazaken a raison. Quand Rabbi Yehoshua a entendu ça, il s'est tourné vers sa femme et il lui a dit, on a ici un chad bedara, on a ici une personne qui est unique dans la génération. Viens, on va faire prépare tout de suite un repas. Ils ont préparé un repas, ils sont restés à parler plusieurs heures. Et d'ailleurs, ce Rav Yehoshua, C'est grâce à... Non, c'est devenu des grands amis. Et c'est grave... Non, c'est pas des... Ce Rav Yehoshua a beaucoup contribué au shalom qu'il y a eu entre les... Enfin, au shalom qui a commencé à se placer et qui est... entre les mitnagdim et les chassidim. Voilà. Alors ça, tout ça, c'est... Ils ont parlé sur ce périncle-là. Après, ils ont parlé des heures.
Ils sont encore un peu fâchés quand même.
Et ça, moi, j'ai lu dans un livre qui s'appelle Beit Rabbi. Ça racontait, bon.
Et ils sont plus fâchés du tout maintenant, jusqu'à maintenant?
Là, ils sont dans le ciel, hein.
Non, je parle
c'est en stand-by dans le ciel.
Je parle des descendants.
Ciel, ah, les Mitnagdim et les machins. Ouais.
Les descendants, ils ont trouvé un terrain d'entente.
D'accord.
Dans le ciel ou au-dessus?
Je ne me dis pas, c'est lequel, hein.
Compromission.
Donc, Velo Yachla...
Dis-lui, c'est quoi le terrain d'entente?
Velo Yachla, les Salka Olimekam Kadam Hashem. Ok, donc l'Admor HaZaken, bon, mais en tout cas... En tout cas, qu'est-ce qu'il dit l'Admor HaZaken? L'Admor HaZaken, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, il ramène ce que le Zohar dit. Hein, bon, celui qui voulait la Gemara, lui a montré qu'il s'écrit dans la Gemara. D'ailleurs, en passant, hein, l'Admor HaZaken, c'est une idée qu'il développera dans le Perek, toujours chapitre 41. Hein, il expliquera qu'en vérité, très souvent, des idées qu'on retrouve dans la Mishnah, ou dans la Gemara, ou dans la Torah, on le retrouve dans le Zohar. Seulement, ils prennent une autre dimension. Il va expliquer ça avec le concept de Asilut Vriya Yitira Asiya, que j'ai expliqué tout à l'heure. Qu'on peut avoir la même chose qui est prise sur des dimensions différentes. Et il donnera des exemples. Comme on peut prendre des fois la même halakha, on peut la prendre avec la dimension Mishnah, dimension Gemara, dimension Zoharique, et que chaque fois, on a l'impression qu'on parle de choses différentes, mais en vérité, c'est la même chose, c'est le même verre. Seulement, ça dépend de quelle dimension tu la prends. Et ça, l'Admor HaZaken, il a montré clairement à ce Rav Yehoshua. Il a dit, bon, moi je t'amène le Zohar. Maintenant, tu veux qu'on t'amène la Gemara, on va te montrer où c'est écrit dans la Gemara. Dans dimension Gemara, ça existe aussi. C'est plus caché, mais ça existe. Bon, revenons à notre sujet, c'était une parenthèse. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar dit que sans amour et sans crainte, la mitzvah ne peut pas monter en haut. Alors qu'est-ce que ça veut dire sans amour et sans crainte? Et c'est là, et ça c'est très important, parce que ça nous concerne. En tout cas, ça me concerne moi personnellement tous les jours. Sans amour et sans crainte, ça veut dire sans kavana, ni instinctive, ni analysée. Par exemple. Va'inu, ça veut dire. Afilu imeno sek chez l'olishma mamash. Même si c'est pas qu'une personne fait une mitzvah chez l'olishma, vraiment. Quand on dit chez l'olishma, ça veut dire pas du tout pour Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure l'exemple, par exemple, j'étudie pour devenir rabbin. J'étudie pour approfondir mes connaissances. Pas du tout pour Dieu. Même si c'est pas ça. Même si c'est seulement que j'étudie, je fais une mitzvah par habitude. Par habitude. Donc j'ai ni kavana instinctive, ni kavana analysée. Donc en vérité, là, on va parler de quatre catégories, excusez-moi.
J'étudie pour devenir rabbin, ça veut dire quoi?
Ah, on va parler.
Le statut social. Quand celui qui fait médecine, il faut être médecin. Pour gagner
on va parler tout de suite.
La Porsche, machin.
Donc en vérité, on va parler ici de quatre catégories. D'accord? Première catégorie. C'est celui qui fait avec la kavana analysée, c'est le top. D'accord, c'est comme le champ miné. Deuxième catégorie, c'est kavana instinctive. Enfin, ça veut dire que c'est au fond de ma pensée, je sais que ça existe. Troisième catégorie, c'est celui qui fait stam. Stam, ça veut dire ni il fait l'ishma, ni il fait pas l'ishma, ni il fait pour Dieu, ni il fait pas pour Dieu. Il le fait par habitude. Il se brosse les dents le matin, il vient à la synagogue, il prie. Maintenant, il s'est même pas rendu compte qu'il a prié. Je sais pas si ça vous arrive des fois. On s'est même pas rendu compte qu'on a prié. C'est tellement une routine que je me suis même pas rendu compte. C'est d'ailleurs, comme j'ai dit il y a quelques semaines, c'est d'ailleurs ce qui peut arriver quand je fais la midah, j'oublie est-ce que j'ai dit Yaleviavo ou pas. Comment je peux oublier si j'ai fait Yaleviavo? C'est un texte tellement beau. Comment je peux oublier si j'ai dit Yaleviavo? C'est-à-dire que je suis complètement à côté de la plaque. D'ailleurs, j'étais ailleurs. Je suis en train de penser à mon business, d'accord? Alors qu'en vérité, on est en train de faire la midah. Donc ça, c'est le troisième niveau.
Si on a oublié.
Oui. C'est sûr que ça existe. Troisième niveau, c'est quoi? C'est quand je fais une mitzvah stam. Stam, comment on peut traduire en français stam? Ça veut dire par défaut. Par défaut, ni pour, ni contre, je fais par habitude. Et le quatrième qu'on va parler à la fin, hein, ça c'est quand je fais la mitzvah par intérêt. Je fais la mitzvah par intérêt. Et là, on va expliquer que ça, c'est pas... Enfin, bien sûr, quand je dis c'est négatif, ça veut dire que ça pourrait être récupéré, mais ça, la mitzvah, c'est sûr qu'elle aura beaucoup de mal à monter en haut.
C'est pas alors, yoga, alors.
Là, pour l'instant, on va parler de la troisième catégorie. Les deux premières, on en a déjà parlé. D'accord? On en a déjà parlé. On a dit, il y a le champ miné, ça c'est la kavana analysée, j'ai réfléchi. D'accord? Ça veut dire que tellement j'ai réfléchi que j'en trempe, c'est réel. La kavana réelle, voilà, peut-être on va trouver un autre mot, réel, c'est peut-être mieux comme traduction.
Oui.
Kavana
oui,
réelle.
Oui.
C'est mieux, ça va.
Vécu, je dirais, moi. Vécu.
Et deuxième kavana, c'est kavana que c'est au fond de moi, je sais qu'un jour ça pourra arriver. Très
mental.
Bien. Là, maintenant, on va parler de la troisième. Donc, afil ou imeno sekshelolishma mamash, même si la personne, c'est pas la quatrième catégorie qu'il fait la mitzvah sans, il fait la mitzvah pour, pas pour Dieu du tout. Les choux mesopnia chazécham. Et là, que Moshe Katouv, seulement, il fait la misa comme c'est écrit, donc on est dans la troisième catégorie. Vateir atam oti mitzvat anashim melumada. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Isaïe? Le prophète Isaïe dit comme ça. Il dit que la crainte du peuple juif, enfin c'est le prophète qui parle, pas un Akadosh Baruch Hu, il dit que le peuple juif me craint mitzvat anashim melumada. Ça veut dire que melumad, d'accord, ça veut dire qu'ils le font parce qu'ils ont, ils ont pris l'habitude de le faire. Par éducation. Je sais pas comment il traduit ça par un...
Je réfléchis à ce que tu dis en même temps que tu parles, donc je ne traduis pas. Là.
Ça veut dire quoi? Pirouche, ça veut dire Mechamat Hergel Sheurgal Mikatnuto. Par rapport à l'habitude qu'il a été habitué depuis qu'il a été petit.
Ouais, l'habitude, voilà,
c'est écoutez bien, voilà. Regardez bien la différence. Parce que on va expliquer, parce que avec son expliqué à la fin, on verra qu'il y a une différence. Quand c'est quelqu'un qui a fait Teshuva quand il avait déjà 20 ans, d'accord? Et que même si après, à 40 ans, il y avait des gens comme ça, quand ils ont fait une Teshuva extraordinaire, et que pendant les deux premières années, ils étaient à fond dedans, et après, une fois qu'ils prennent le pli. Une fois qu'ils prennent le pli, ils arrêtent de... ça finit. Après, ça devient une routine chez eux aussi. On va expliquer que c'est pas la même chose. C'est un niveau qui est plus fort, même si ça devient une routine chez eux, mais leur routine vaut plus que la routine de quelqu'un qui a été éduqué. Pourquoi? On expliquera juste après. Donc, chez Orgal, Miket Nuto, chez Irgilo, Velimdo, Aviv Verabo. Il est habitué depuis qu'il est petit, qu'il a habitué, et il a enseigné Aviv Verabo, son père et son maître, l'Ira et Hachem, de craindre Dieu, ou le Ovdo, de craindre Dieu et de le servir. Ve'eino sek lishma mamash. Donc une personne qui est née comme ça, hein, on peut pas dire qu'il fait une mitzvah, dans la majorité des cas, dans 99% des cas, on peut pas dire qu'il fait la mitzvah lishma pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, quand je dis qu'il fait pas pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il le fait par routine, c'est pas négatif. Ça veut dire qu'il fait stam, comme j'ai dit tout à l'heure. Par défaut, ni pour ni contre, il le fait par défaut parce qu'il a l'habitude de le faire. Quand on va arriver Soukot, il va construire sa souka, par exemple, ou quand on va arriver le matin, il va mettre les téfilines, c'est pas que chaque matin, il va penser pourquoi je mets les téfilines. Ah, c'est parce que c'est très important et je m'attache à Kadosh Baruch Hu. Je le fais par routine. Quand, même si c'est un juif, je sais pas comment on dit aujourd'hui, on donne des catégories. Un juif orthodoxe ou ultra-orthodoxe. En vérité, c'est un piège, parce que plus on est orthodoxe, et même ultra-orthodoxe, comme ils disent, et plus en vérité, on a plus de chances de faire une mitzvah de manière routinale.
Routinière.
D'accord ?
Il n'y a pas d'effort dans la...
Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de kavana, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de crainte. Je ne le fais pas par mot ou par crainte. Et non, c'est qu'il mamash. Qui lishma mamash, iefsha, bloi toriru trilu chimu ativi mal kolpanim. Parce que, Salman Razaken a un grand principe. Il dit a priori, personne pourrait dire, c'est vrai que moi maintenant, quand je mets les tefillin le matin, je ne réfléchis pas constamment à Kadosh Baruch Hu, mais je le fais quand même. Je viens à la synagogue, je viens à la prière.
Oui.
Pourquoi tu me dis que c'est pas bon? J'ai pas de mauvaise pensée. Bon, ok, je pense à rien. J'ai pas de mauvaise pensée. Pourquoi tu m'appelles pas ça l'ishma? Pourquoi tu dis pas que je le fais pour Dieu? Pourquoi tu dis que c'est par des... Pourquoi tu dis pas que je le fais pour Dieu? Pourquoi tu dis pas que quelque part dans mon subconscient je le fais pour Dieu? Alors, Admor Zeken donne un grand principe. Il dit qu'il ishma mamash, pour faire une mitzvah l'ishma, pour un kadosh bangrou, iefshar bloitoriru trilo chimo ativi malkolpanim. On ne peut pas faire de mitzvah sans avoir au moins un minimum de réveil, de amour, d'amour et de crainte. On va commencer à parler par la crainte, par exemple. D'accord ? On peut avoir plusieurs types de craintes. On va prendre un exemple de la vie de tous les jours. On peut avoir plusieurs types de craintes. Je peux avoir une crainte, une peur de quelqu'un qui est avec un pistolet et qui veut me tuer. Très bien. Je peux avoir une crainte aussi que j'ai peur de faire quelque chose parce que je sais pas, j'ai peur que les gens vont parler sur moi un jour. Mais à un moment ou à un autre, quand je fais quelque chose, il faut toujours avoir une kavana. Quand je dis une kavana, ça veut dire il faut toujours que j'ai peur ou que j'ai peur de quelque chose. C'est pareil pour l'amour. Quand je fais quelque chose à quelqu'un, quand je rends service à quelqu'un, il faut toujours que la raison pour laquelle je le rends service, c'est parce que je l'aime quelque part. Alors ça peut être un grand amour, quand comme on peut avoir pour sa femme ou pour ses enfants, et ça peut être un amour standard, bon, un amour poli. D'accord ? Mais il y a toujours un amour, une certaine sorte d'amour ou de crainte qui est développée. À quel moment ça devient grave ? C'est quand on est capable de faire une tova à quelqu'un, c'est-à-dire de rendre service à quelqu'un, et qu'on pense même pas à la personne qu'on a en face de nous. C'est devenu tellement de manière routinière, tu m'as dit ? Routinière, que je le fais par routine, parce que comme je suis quelqu'un de bien éduqué, donc, j'ai pris l'habitude que quand quelqu'un me demande un service, je lui donne. Maintenant, ni je pense à la personne qui est en face de moi, et même pas je le regarde. J'en ai rien à faire de lui. Seulement, par habitude, j'ai pris l'habitude que, comme je suis quelqu'un de poli, donc quand on me demande, je fais. C'est exactement la même chose qu'on retrouve par rapport à Kadosh Baruch Hu. la même chose. Vous pouvez avoir quelqu'un qui... C'est la même chose quand le service. Vous avez celui à qui vous allez demander un service, et il va vous montrer qu'il vous aime grave, il va le faire avec grand plaisir, avec le sourire. Bon, ça c'est le top. Vous avez celui qui va le faire par politesse, puis il va le faire quand même avec le sourire. D'accord ? Ça veut dire que bon, ça c'est déjà, c'est plus éloigné, mais ça existe. Là, vous avez le troisième niveau, c'est celui qu'on est en train de parler. C'est celui qui va vous rendre le service, mais qu'il est carrément ailleurs. Il vous rend le service parce que c'est instinctif chez lui, c'est habituel. Dès que quelqu'un me demande un service, je le rends service. Mais ni, il vous a même pas regardé, il pense même pas à vous, il a même oublié qu'il vous a vu. Car, de la même manière, Yev Char la Sot, Lishmo it barer behemet le malod ratzono levad, bli zikaron veit orerut ahavato veir atoklal, bemocho marchavto vetalumot libo al kotay. Il est impossible d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu sans réveiller, donc de manière lishma, sans réveiller au moins un petit peu, au moins, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la peur, il y a la crainte, mais il faut au moins réveiller quelque chose. Il faut que je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Quand c'est de manière routinière, là, dans ce cas-là, je ne sais pas du tout lishma. On aurait pu penser que quand je fais de manière routinière, on peut dire que peut-être que dans mon subconscient, je suis en train de penser à Akadosh Baruch Hu. Tu dis non, ça marche pas comme ça. De la même manière que quand tu rends un service à quelqu'un, il faut que tu prennes conscience de ce que tu es en train de faire. Comme j'ai expliqué les deux semaines, que le rabbi précédent disait, que le plus important c'est la simat lev, c'est l'attention qu'on donne à la chose. Alors, peut-être que tu n'auras pas la grande attention, mais il faut au moins un petit peu d'attention. De faire attention à ce qu'on fait, de se rendre compte de ce qu'on fait. Et donc là, le troisième niveau, c'est celui qui ne fait pas du tout attention. Et ça, il te dit, désolé, même si tu n'as pas de mauvaise pensée, tu mets tes tefilines, tu viens à la synagogue, désolé, dans ce cas-là, ça s'appelle shelo lishma. C'est une mitzvah qui est faite shelo lishma. C'est pas pour le nom d'Akadosh Baruch. Alors qu'est-ce qui va se passer de cette mitzvah? Vegam ahava levada enanikret veshem avoda bli irat ata lefachot shemisuteret velev kol Israël. Déjà avant de dire qu'est-ce qui va se passer avec cette mitzvah, l'Admor HaZaken juste ouvre une petite parenthèse de deux lignes dans laquelle il dit qu'il faut savoir qu'il y a des gens des fois qui arrivent à servir Akadosh Baruch Hu avec l'amour, c'est-à-dire qu'ils aiment Dieu et ça, ce sentiment d'amour, ils arrivent à le développer. Mais la crainte, pas du tout. Ils n'ont pas du tout peur de Dieu. Et ça, là, de mon Razakanadi, c'est la même chose. Mais ça, c'est une parenthèse, en vérité. Pourquoi je vous dis que c'est une parenthèse? Parce que ça aussi, chapitre 41. Chapitre 41, on expliquera pourquoi c'est important d'avoir l'amour et la crainte. Là-bas, il expliquera que l'amour et la crainte, c'est les deux ailes avec lesquelles la mitzvah peut voler. Et que s'il y a une seule des deux ailes, ça peut pas monter. Bon, ça, il se fera plus loin. Ukshosek, Shelolishma Mamash, Leshum, Ezop. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une personne fait une mitzvah chez Lolishma, dans la troisième catégorie? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La mitzvah, à ce moment-là, reste bloquée. Elle ne peut pas monter en haut.
Kipat Noga?
Non, pas Kipat Noga. Elle reste bloquée dans le monde de Asiya. Alors, avant de dire exactement qu'est-ce qui se passe quand elle reste bloquée, on va parler de la quatrième catégorie. Quatrième catégorie, on a dit, c'est quand une personne fait une mitzvah.
Par intérêt. Enfin,
alors là, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quand je rends service à quelqu'un, non seulement que je ne fais pas attention à lui, mais je le fais par intérêt. Ah pourquoi bon je le rends service? Dans mon exemple, ça aurait été quoi? Pourquoi je le rends service?
Par intérêt.
Parce que j'ai un intérêt de ça. C'est-à-dire que c'est même pas pour lui. Lui, je l'ai même pas vu, lui. J'en ai rien à faire de lui. D'accord? Ça veut dire que c'est ni comme les deux premières catégories dans lesquelles il y avait un intérêt, ni comme la troisième catégorie que j'étais neutre. Je l'ai fait par routine parce que bon, je suis quelqu'un de poli. C'est carrément là, je le fais par intérêt.
C'est stratégique.
Par exemple.
Relationnel.
Le shum et zopnia, l'irvod atmo. Quand je le fais pour une raison, l'irvod atmo pour un kavod personnel. Kegon, par exemple, vous avez posé la question tout à l'heure, comment c'est possible? Kegon, par exemple, l'iod talmit racham ou kaagavna. Par exemple, quand une personne étudie pour être un talmit racham, ou bien comme le Shulchan Aruch dit, le Shulchan Aruch dit clairement, il dit kede chez ekare rosh yeshiva. Il dit clairement. Il dit qu'une personne étudie la Torah pour qu'on l'appelle rosh yeshiva. Objectif. Très très dur ce qu'on dit ici. C'est-à-dire qu'il étudie. Pourquoi il étudie? Il étudie parce que c'est un métier. De la même manière qu'il y a des gens qui vont à l'université pour apprendre à devenir, je sais pas, médecin, lui, il apprend à devenir rabbin.
On s'en va alors.
Ah, c'est moi qui dois partir. Donc, Kegon, par exemple, Liot, Talmit Racham ou Kehagavna. Là, c'est la quatrième catégorie et là, c'est le pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le Mor HaZaken, ici, va expliquer que faire une mitzvah pour le but de devenir un Talmit Racham, c'est plus grave que le simple juge qui vient à la synagogue, qui fait ni pour eux. D'accord? Il vient, c'est tout, il vient à la synagogue parce qu'il a été éduqué. C'est plus grave. Azaï à ce moment-là. Otapnia shemitzad aklipa de noga mitlabeshet betorato. Le problème qui est à ce moment-là, c'est que la raison pour laquelle on fait la mitzvah, qui elle ne vient pas de la kdusha, parce que c'est une mitzvah de la Torah d'étudier, Mais c'est pas une mitzvah de la Torah de devenir Talmid Chacham. On est bien d'accord? Vous me suivez? C'est une mitzvah d'étudier. Mais c'est pas une mitzvah de devenir, devenir érudit, c'est pas une mitzvah.
Ah si.
Non. C'est devenir marqué, Talmid Chacham, c'est pas une mitzvah.
C'est marqué que, au début de, soit
c'est une mitzvah, il y a deux mitzvot. Il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Oui, et selon Admor HaZaken, il y a également une mitzvah de connaître la Torah. Mais il n'y a pas de mitzvah de, qu'on m'appelle Talmid Chacham.
Ah non, mais tzadik.
Eh bien.
Oui.
Ah bien. Non, il n'y a pas de mitzvah qu'on m'appelle tzadik.
Mais c'est marqué.
Il n'y a pas de mitzvah qu'on m'appelle tzadik.
Qu'on soit tzadik, oui,
mais pas qu'on
soit tzadik. Très bien.
Qu'on soit tzadik.
Pourquoi il fait la mitzvah? D'accord? Pour qu'on dise, ah, t'as vu celui-là, comment il a fait, comment il a fait la mitzvah. Qu'est-ce qu'il dit, c'est le Morazaken? Morazaken, il dit que quand une personne fait une mitzvah comme ça, et là, juste pour vous montrer un exemple, comme j'ai vu tout à l'heure, qu'en vérité, plus on est orthodoxe et plus le piège est fort. Une histoire qu'on raconte, il y avait une fois un parouche, qui vivait dans une des villes, Lituanie. Un parouche en hébreu, c'est-à-dire quelqu'un qui se sépare du monde. Il y avait des gens à l'époque, il y avait une certaine mode, d'accord, il y avait des gens que quand ils avaient atteint un certain niveau, ils se séparaient du monde, ils s'enfermaient dans une pièce. Et comment tu dis ça?
Un ermite.
Ouais.
Et
Bernard.
C'est la communauté qui subventionnait leurs besoins. Et donc, de manière générale, c'est des gens qui s'enfermaient dans une synagogue.
Le cloître.
Enfin, ils se fermaient dans une pièce dans une synagogue. Comme ça, ils entendaient les kaddish, etc., mais personne ne les voyait. On les voyait de kippour en kippour. Certes, jamais.
Ah, bon, on sait d'où ça vient, alors.
Ça vient.
C'est chaud.
C'est des gens. Et qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient dans la pièce? Attention, on ne parle pas des gens dans la pièce. Ils priaient, ils pleuraient, tout ce que vous voulez. Ça s'appelait les prouchim, parouches.
C'est quelle époque, ça? Excuse-moi, l'époque de la Gemara?
C'est à l'époque du Admor HaZaken. L'époque de Admor HaZaken, c'était très fréquent, ce concept de parouche.
Ah bon?
Ouais. Et on raconte une histoire avec un parouche.
Non, je m'aurais pas plu, mais je savais pas que c'est à cette époque-là.
Ouais. On raconte une histoire avec un parouche. Il y avait une fois un.
Qui a repris l'idée, tu me diras où.
Oui, il l'a repris avant.
Pour vous montrer un exemple. Il y avait un parouche une fois comme ça, qui s'est enfermé dans sa pièce pendant plusieurs années. Il s'est enfermé dans sa pièce pendant plusieurs années, et vraiment, il a étudié la Torah. Il étudiait la Torah, il faisait la tefila, etc. Et même manger, pour manger, boire, etc., il s'arrangeait pour ne pas sortir de la pièce.
Il sortait jamais
de la pièce. On lui faisait passer, tellement il voulait pas voir personne, qu'on lui faisait passer la nourriture par en dessous de la porte.
Très bien.
Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Parce que c'est lui-même, c'est le rab lui-même qui a raconté cette histoire. C'est
pas toute sa vie, mais une partie de sa vie.
Qu'est-ce qu'il a fait? À un certain moment, quand il était en train de prier et d'étudier, il a commencé à entendre des voix à côté de la porte.
Quand il étudie,
il s'est dit, ah!
Le parouche,
il a entendu des voix, des gens qui étaient à côté de la porte. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, ah! Maintenant les gens, ils ont entendu que je suis parouche. Donc, il y a du monde qui est venu à côté pour, ils ont envie d'écouter ma tchila et mon étude. Donc,
il s'est mis
à faire plus fort. Non, mais sincèrement. Il s'est mis à faire plus fort. Il s'est dit, comme ça, les gens, ils vont m'entendre. Et avec le temps, d'accord? Avec le temps comme ça, sont passées les semaines, et le bruit devenait plus fort. Lui, il s'est dit, ah! Non, il y a beaucoup de monde qui est dehors. Donc il est encore plus fort.
C'est une tina, c'est un rôle de garde.
Arrive le jour où il devait sortir. Ça devait être la veille de Kippour. Arrive le jour où il devait sortir. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il voit? Il voit 10 chats en train de se battre. Le bruit d'où il venait. C'était des chats qui s'étaient installés. Il y avait le père, la grand-mère, tout ce que vous voulez. C'est là qu'il a réalisé qu'en vérité, toute la cavana qu'il avait pendant toute l'année.
C'était pour des chatouches.
C'est là qu'il a compris qu'il était dans l'erreur. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est pas pour se moquer du préserve. C'est pour montrer que plus on est orthodoxe, et plus le piège est grand. Plus le piège est grand qu'on fait la mitzvah par intérêt. Par intérêt pour une raison. Et là, bien entendu, bon, il a fait une grande teshuva, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une personne... On la pienne, bon. Qu'est-ce qui se passe quand une personne fait une mitzvah avec une pnia, avec une raison, pour une raison, pour devenir un talmid chacham ou pour faire plaisir au chat, d'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Cette mitzvah est bloquée en bas. Vea Torah et Vibrinat Galut Betor Haklipa Lepisha. Son étude de la Torah, non, c'est pas seulement qu'il manque une aile, non.
C'est
bon, non.
Elle dépasse.
Là, c'est plus la même chose, attention. Il lui manque une aile, c'est dans la troisième catégorie. Dans la troisième catégorie, là, tu dis, t'as pas d'ailes. Maintenant, après, on va expliquer après comment faire pour ramener les ailes. Mais là, c'est pire qu'il n'y a pas d'ailes. C'est qu'il a de la glu qui l'attrape en bas. Il est collé en bas.
Comme un rat.
D'accord? Betor, à clipa les fichas. Ad, asher, y'a assez de chouvin. Shemeviar et Foua Leolam. Jusqu'à qu'il fasse une teshuva. Qu'est-ce qu'elle va faire cette teshuva? La teshuva, on dit que la teshuva, c'est écrit dans le traité Yoma, que la teshuva, ça amène la guérison dans le monde. Comment explique ça de Morazaka? Quelle guérison? On a vu que la teshuva, ça amène la guérison. Vous avez déjà vu que la teshuva, ça amène la guérison? On a vu ça que teshuva, ça amène la guérison. Admor Hazaken explique, d'accord, en remède, en allusion, que qu'est-ce que ça veut dire que teshuva amène la guérison? C'est ça. C'est que quand une personne fait teshuva, à ce moment-là, ça amène la guérison, ça veut dire que ça va guérir toute la Torah et mitzvot qu'il avait fait sans kavana. Là, il explique dans le sens dimension zoharique. Chez Beshuvo El Hashem, Gam Torato Shavaimo. Quand il retourne chez Akadosh Baruch Hu, quand il va faire teshuva, teshuva vient du mot retour, automatiquement, les anciennes mitzvot vont aussi retourner chez Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Chachamim ont dit Zichronam Livracha, pour revenir à ce que tu as dit Yaakov tout à l'heure.
N'importe quel type de teshuva, une catégorie net plus ultra.
Ça non.
Fait, c'est 1042.
Non, une teshuva, une teshuva sur ça. Le concept de teshuva explique Maïmonide.
Sur ça.
Oui, sur le fait d'avoir servi à Kadosh Baruch Hu avec une raison.
Pas l'ishma, l'olishma.
Explique Maïmonide, c'est quoi le concept? À quel moment on peut dire
que... Tout ce qu'il aura fait avant va changer.
Oui. Parce que les Torah Mitzvot sont restées bonnes, il y avait de la glu. Dès qu'il va faire teshuva, c'est quoi teshuva? Il va retourner chez Akadosh Baruch Hu. Explique Maïmonide à quel moment on peut dire qu'une teshuva est bonne. C'est quand on arrive devant la même situation et qu'on retombe pas dans le panneau. Donc là, c'est la même chose. Il va revenir devant l'étude de la Torah et il va réussir à être l'ishma à fond, à faire pour Dieu. Là, à ce moment-là, il récupère tout. Mais attention, c'est un piège parce que on peut rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie sans le lishma. On peut rester jusqu'à la fin de sa vie à servir Dieu par routine, à venir à la yeshiva, à étudier, etc. Sans qu'en vérité on a réfléchi une seule seconde, qu'en vérité on le faisait pour Dieu, sans être conscient de ça. Attention. Alors on va arriver à ce que, très intéressant comme Alan Mourazaken va développer ici une Gemara. Il dit, mais la chaîne Amourazal, c'est pour ça que les Chachamim m'ont dit, l'olam yasok adam, que toujours une personne doit toujours s'occuper, donc faire la Torah et mitzvot, même si c'est chez l'olishma, même si c'est pas pour un kadosh baruch hu, pourquoi? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Donc ça rime, on se tape. Shimitor, chez l'olishma, pas l'ishma. Parce que même s'il fait la mitzvah, pas l'ishma, pas pour Akadosh Baruch Hu, mais il finira par arriver à l'ishma. Alors regardez comment le Morazaken développe, explique la Gemara.
Voilà.
Non! Regardez comment explique la Gemara. Écoutez bien. Il te dit que quand tu dis Shimitor, chez l'olishma, pas l'ishma, il faut pas comprendre dans le sens simple que toute la Torah que j'ai fait jusqu'à l'instant, ou dans 10 ans, où je vais commencer à faire l'ishma, alors en vérité, cette Torah ne vaut rien, mais bon, le but, c'est d'arriver à ce qu'il y a dans 10 ans. Non, le Morazaken, il faut pas dire comme ça. Shemitor, chez le lishma, par le fait que tu vas étudier chez le lishma, va à l'ishma. Cette Torah-là, un jour, arrivera au niveau de l'ishma. Cette Torah, un jour, arrivera au niveau de l'ishma. Pourquoi? Qui te dit? Peut-être oui, peut-être non. Shebevadai, sofo la sotchouva. C'est sûr qu'à un moment ou un autre, la personne fera teshuva. Pourquoi? Peut-être que jusqu'à la fin de ma vie, je ferai les mitzvot, je ferai la Torah que pour devenir rabbin. Jamais je ne le ferai pendu. Alors, il te dit, il a demandé à Zakaen. Begilgulze ou begilgulachéen. C'est possible que ça passe dans mon gilgul. C'est possible que ça passe dans mon gilgul. Alors pourquoi d'où, tel que la demande à Zakaen le présente ici, on a l'impression que c'est une sortie de secours. La demande à Zakaen, c'est pour ça qu'il amène une preuve. Il dit, kilo idar, il mène une idar.
J'ai pensé à la question de M. Badassan.
D'accord? Bien sûr, bah, tout le monde, moi, j'ai pas, quand j'ai lu, je pensais tout de suite à la question. Non, je dis, c'est facile, Gigouzé, on n'est pas là. Je dis, c'est à rôter les chakéas, il y a riqué d'outo. D'accord?
Non, moi, je pense pas.
Elle est belle.
Je pense pas comme ça sur le
Alors, écoute bien.
Quand il dit, je pense qu'il
non, c'est vrai qu'il amène une preuve. Tout est calculé. Kilo idar, il mène une idar. Il y a un verset dans Shmuel qui dit que lo idar, il mène une idar. Que personne ne sera repoussé d'Akadosh Baruch Hu. Et la Demourazaken, comme son habitude, il prend pas les versets de manière poétique. C'est-à-dire que bon, quand une personne sera repoussée, ça veut dire bon, c'est pour t'encourager. Non, ça marche pas comme ça. Quand on te dit que personne sera repoussée, ça veut dire que ça va se passer comme ça. Personne sera jamais repoussé. Donc ça veut dire que si quelqu'un, même si moi j'ai fait mes mitzvot toute ma vie, d'accord, chez l'Olishma, j'ai fait parce que j'ai envie de devenir rabbin, Dieu s'arrangera pour que avant que ma chère vienne, il y aura un instant dans lequel moi ou un gilgoul à moi le fera l'Olishma, de manière à ce que tout sera récupéré.
Voilà.
L'oïdar menonidar, c'est pas poétique, c'est un fait. Ah, kesheo sestam, le lishma, belo
shen. C'est un encouragement.
Bien sûr, grand encouragement.
Non.
Ah, ou que bien.
Je parlais dans l'autre sens.
Oui, j'ai bien compris.
Dans le sens où ça veut dire, ben.
Ça veut dire, je me dis, au pire, toutes les façons,
Mais le mec, il s'en fout, il peut continuer. Il lit ça, il dit, c'est super, tout. Moi, j'ai comme ça, moi, je veux du business, la synagogue, ça rapporte, je veux être rabbin pour que ça rapporte, j'en sais rien, on a dit ça, l'exemple et tout.
Ouais.
Et il s'en fout, il dit, ouais. Enfin, le mec, il dit, quelqu'un qui le connaît, il dit, tu s'appelles pas les chemins, ou moi, ou un autre qui le coule, un jour, ça va sortir.
Ah, non, ça va revenir.
En fout, de toute façon, in fine, mes mitzvot, elles seront aussi bien,
Ah,
que non. Celui qui ça, a non. fait l'Ishma.
Non, ça sera jamais aussi bien.
Pourquoi?
Parce que
Tshuva, Tshuva, l'Ishma.
Non, c'est la différence. La différence, c'est le concept des flèches qu'on a expliqué la semaine dernière.
Il va me ressortir 20 ans que je n'étais pas la semaine dernière.
Le concept des flèches qu'on a expliqué la semaine dernière. Que quand je fais une mitzvah, j'envoie une flèche. Et d'accord. Cette flèche, elle monte. Donc si moi maintenant je fais mes mitzvot chez l'Ishma, pas l'Ishma, et que juste avant que ma chère va venir, hack, Dieu m'enverra un déclic, il dit bon allez, l'Oïdar, je mets mon Oïdar, hein, allez, maintenant l'Ishma. Ben, la flèche, elle va démarrer que maintenant.
Ça s'appelle pas Tshuva alors.
Oui. Ça veut dire Teshuva, mais après Chouva. ça veut dire que j'aurai toujours du retard.
Non, c'est pas Tshuva alors.
J'aurai toujours du retard.
Tshuva, ça veut dire on revient au point de départ.
Oui.
C'est pas Tshuva. Là, ça veut dire c'est pas un Tshuva, ça s'appelle un nouveau départ. On considère qu'à partir de maintenant, ça s'appelle pas Tshuva.
Le concept
Tshuva, c'est je remonte dans la 20 ans, peut-être 3 Gilgulim.
Le concept de Teshuva ici, c'est pour ça que le roi David dit Vechatat bien qu'il a fait Teshuva, il dit Vechatati Nagditamid. On dit la semaine dernière.
Aussi. Le mal est fait.
Non, mais peut-être que...
Pourquoi on dit Vechatati Nagditamid? Pourquoi le roi David qui a fait Teshuva, il dit ma faute est toujours devant
parce
moi?
Parce qu'il s'est marqué simplement.
C'est poétique, mais... hein?
Non,
poétique,
non, pas du tout.
Ça
non, parce que le principe de la Teshuva, c'est que chaque fois qu'on s'élève, on s'aperçoit que l'état où on était avant, c'était pas bien.
Alors, l'admiral Zaken a expliqué le concept de la flèche.
J'ai d'autres possibilités.
Oui, non, mais c'est la même chose. Je veux dire la même chose, mais avec le concept de la flèche. C'est la même chose. C'est que quand je fais une Avera, c'est la même chose. La flèche, elle monte. Et même si j'ai fait Teshuva, mais la flèche, elle montait encore. J'ai toujours réparé plus haut. C'est pour ça que le tzaddik, il comprend qu'il y a toujours à réparer. Jamais la Avera s'est arrêtée. Donc, celui qui va faire Teshuva, il aura perdu tout ce laps de temps. Ça veut dire, il avait de la glu, il était bloqué en bas. Maintenant, on a lâché la glu, donc pouf, il va commencer à voler. Mais il a perdu du temps. Le temps, on peut pas le rattraper. Meuvat lo yochal litkon. On peut plus arranger ce temps perdu. Maintenant, bien sûr qu'avec le temps, tu monteras au niveau où tu aurais dû être. Dans 10 ans, tu seras ok, tu vas monter. Mais tu as perdu du temps. Ah oui.
Ça aurait pu être mieux.
En même temps, comme la vie
attention,
éternelle,
il faut bien faire la différence. Il faut bien faire la différence. C'est ça, on l'avait expliqué il y a quelques mois. Hein, entre la Teshuva pour le din, d'accord, et la Teshuva pour le monde. J'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire la Teshuva pour le din. La personne, il fera Teshuva, on va lui dire, bon, monsieur, maintenant, vous êtes zakai, vous êtes méritant. C'est bien. Mais ça change pas que Meuvat lo yochal litkon, que une personne qui a fait une avera, l'avera n'a pas été arrangée. Ça fait un mal dans le monde. Il faut réparer ce mal. Donc Teshuva, c'est pas de problème, t'as fait Teshuva, on t'accepte Teshuva, Gan Eden, pas de problème. Mais il y a un mal à réparer maintenant. Il faut réparer ce mal. C'est pour ça qu'on peut avoir des gens, de roi David, qui est au Gan Eden maintenant, et toujours en train de réparer la faute qu'il a fait. Enfin, faute entre guillemets, si on peut dire qu'il a fauté.
Tu l'as dit quand même.
Bon, avec Mara Brachot, elle dit... Bon,
okay. Celui qui dit ça...
Celui qui dit ça, alors...
Il fait chier.
Bon, si la Gmara dit celui qui dit ça, ça veut dire qu'on aurait pu dire ça.
C'est vrai qu'on aurait pu.
Mais le titre, par contre, il est certain. Qui va derrière.
Donc.
Enfin, bon.
Donc, qu'est-ce que je vais expliquer par ici, pour pas nous évader. Ça veut dire que, Léolam, Yassak Adam, toujours une personne doit étudier chez l'Olish, même chez l'Olishma, parce que, t'inquiète pas, la Torah que t'as fait chez l'Olishma, elle finira toujours par devenir l'Olishma. Quand? Dès que tu feras une fois les mitzvot avec l'Olishma, avec une bonne kavana, et eh ben automatiquement ça va monter.
C'est pas un jour l'autre, il faut dire, c'est une vie ou l'autre.
Bon, alors justement, c'est pour ça que j'ai envie d'arriver à la fin du Pérec, parce qu'on va donner des exemples concrets comment ça peut nous concerner dans la vie de tous les jours. Parce que bon, tu me dis un autre Gilgul, je dis bon, un autre Gilgul, moi je connais pas de Gilgul. Ah, quelque chose c'est Stam, je veux juste finir le Pérec et on résume. Ah, quelque chose c'est Stam, l'Olishma, vélo chez l'Olishma. Donc, on va revenir à la troisième catégorie. Si on est à la quatrième catégorie qu'une personne fait une mitzvah, vraiment l'échem punia, ça veut dire qu'il fait pour une raison, pour devenir rabbin. D'accord? Ou pour avoir des connaissances, ou pour qu'on dise, ah, t'as vu, il est religieux. D'accord?
Ah oui,
ça peut aller très loin, hein. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On dit que ces mitzvot sont bloqués en bas. Ça peut aller très très loin, hein.
Tu veux pas développer?
Non, je veux pas développer, je vous donne un exemple.
Non, j'ai l'impression que j'ai pour
C'est comme si, par exemple, assez clair. D'accord? C'est comme si quelqu'un, il marche dans la rue. D'accord? Et il y a une jolie femme qui passe. Et il va pas la regarder. Pourquoi il va pas la regarder? Est-ce qu'il va pas la regarder parce que il a pas envie que les gens le voient?
Assourd.
Non, on va commencer par le premier. Parce qu'il a peur, c'est assourd, très grave. Ou bien parce qu'il a peur que les gens le regardent.
Il
sait au fond de lui que c'est pas bien, que c'est assourd. Il sait au fond de lui que c'est pas bien. Mais c'est pas bien, que bon, il faut pas le faire. Ça c'est la kavana instinctive.
Oui.
Troisième catégorie, ça peut être, il s'en fiche. Ni pour l'un ni pour l'autre. Non, pas il s'en fiche. Pas il s'en fiche, mais il le fait. Pourquoi? C'est devenu une habitude chez lui, c'est une routine.
Ouais.
Et le quatrième, Pourquoi il le fait? Pour que les gens qui vont le voir vont dire, t'as vu, il y avait quelqu'un qui est passé et il a tourné sa tête.
Ah mais c'est la fille de qui dans la Gemara? La fille de l'homme le plus riche là qui... Un jour les Romains l'ont vu.
Gimon Ben Gurion, oui.
Ouais, c'est exactement ça. Elle marchait très doucement avec... Ouais. Et on la dira. Très bien ça.
Oui, pour ça, Gemara. Donc...
Faut pas développer.
C'est pour ça que je vous dis, ça peut aller très très loin.
Chapitre
41. Vous allez, je veux pas développer.
Je veux pas développer.
C'est pas certain qu'il marche à l'envers tout le temps.
Ah oui, c'est dépend ça.
C'est comme on dit, il y en a qui disent que quand il y en a que quand ils marchent dans la rue, il y en a que quand ils marchent dans la rue, toute la journée, ils pensent, ça veut dire, ils pensent pas du tout à regarder les femmes. Ils pensent, pour lui, il croit que c'est des poteaux en face de lui, comme c'est pour voir ce qu'il écrit dans la Gemara. Donc même quand il se cogne contre une femme, pour lui dans sa tête, il s'est cogné contre un poteau. Il y en a, c'est le contraire. Tellement il pense aux femmes que même quand il se cogne contre un poteau, pour lui,
non,
il s'est
cogné.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis épargné de ce
par au prochain
dilemme.
Ah, t'as vu? C'est une grande chance que tu as.
Que vous avez garanti.
Donc,
oui, c'est le cours de Rochaya. On en commet un cours de
Rochaya. Eh, Nadavar, Talou, Ibich. Donc, maintenant, quatrième catégorie, quand une personne fait...
Non, je voudrais lui dire qu'il n'est pas complètement à l'aise. Hein. Trop facile, il croit quand même. Et les odeurs?
Et la voix?
Non, je parle maintenant... les odeurs. Tu dois sûrement être beaucoup plus sensible que nous aux odeurs.
Mais la différence, c'est que c'est très difficile de s'empêcher de sentir alors que regarder...
Non. Quoi?
Ça, c'est
ah non.
De regarder aussi.
Oui, non, mais le problème, c'est pas ça, c'est regarder et avoir les idées
voilà.
Qui sont avec.
Ouais. C'est sentir.
Tu vas sentir, mais tu peux sentir, ça te fait ni vu ni connu, et sentir, tu t'imagines.
Oh. Et je suis sûr que même dans la perception...
Oui ou non?
Il y a des sentiments cachés qu'il y a.
Non, mais au niveau de l'odeur, tu dois être beaucoup plus doué à distinguer des choses que nous, on voit rien du tout.
Ou même les sentiments...
De toute façon, le Yetzara, il met le paquet où il faut, il se débrouille.
Non, oui ou non?
Ah, mais la vue, c'est quand même un grand facteur dans la Vera.
Non, d'accord, mais...
C'est
un très grand facteur.
D'accord, c'est un facteur parce qu'il va loin. Là, il faut être à côté.
Non, c'est... Aïn Roé va le promède.
Voilà.
Donc, quatrième catégorie... Quand c'est la quatrième catégorie... Quand c'est la quatrième catégorie, qu'est-ce qu'on a dit? La mitzvah est collée avec de la glu en bas. Très bien, jusqu'à qu'on fasse teshuva. Mais si, c'est la troisième catégorie. Quand une personne fait mitzvah, stam, par défaut. C'est-à-dire par routine. Voilà, ça c'est un cas standard, vraiment. Là, c'est la majorité des gens. Ils font une mitzvah par routine. Pourquoi tu mets les téfilines le matin? Pas pour qu'on te voie et qu'on te dise, ah, t'as vu, il a mis les téfilines. C'est pas par routine. À ce moment-là, en adavar taloui bitshuva. Là, il n'y a pas besoin de tshuva. Alors comment on fait monter la mitzvah? Comment on ramène les ailes à la mitzvah? Et la miyat shechozer velomet davar zelishma. Dès qu'il réétudie le même texte, lishma, ça c'est intéressant, lishma pour Akadosh Baruch Hu, aregam mashelamad bistam mitraber ou mitzaraf elimudze. Ça veut dire que si par exemple le chapitre 39 de Tanya, je l'ai étudié sans kavana, si dans un mois je réétudie le chapitre 39 avec une kavana, je fais pour Dieu, l'étude dans un mois, elle va prendre avec elle l'étude qu'il y avait un mois avant. Me'acha, chez l'onit labeshbo adain shum klipa denoga. Puisque, il n'y avait pas de glu. Seulement quoi, il n'avait pas d'ailes. Donc puisqu'il n'a pas d'ailes, il suffit qu'il y ait un autre qui vient avec des ailes et il part avec. Il n'y a pas de glu, il n'est pas bloqué. Ve'lachen, le'olam yasok adam roule ve'chen en bitfila shel bekavana ki moshe ketuv bezohar. Ah. Pourquoi j'ai dit que l'exemple qui allait nous concerner tous les jours. Vous avez remarqué que dans la tefila, on répète trois fois par jour la même chose. D'accord? Trois fois par jour, on répète la même chose. On pourrait se poser la question, c'est un des trucs qui dérange le plus, mais pourquoi je répète trois fois par jour la même chose? Ça nous casse les pieds à un certain moment. Pourquoi au moins on varie pas? Au moins, le matin, l'après-midi, le soir, tu varies. C'est comme si tu manges le même repas trois fois par jour pour toute ta vie. Bah, ça va. Combien? Alors, qu'est-ce qu'explique le Zohar? Le Zohar explique comme ça. Le Zohar dit que, une des kavanotes qu'il y a, pourquoi les Chachamim ont fait comme ça, c'est parce que quand je fais l'amida, si je fais l'amida sans kavana, par routine, disons que demain, je fais la bracha slach lanu avinu avec kavana, pardonne-nous notre père parce qu'on a fauté. Tous les slach lanu de ma vie montent à ce moment-là.
Tu as fait une belle sortie.
Ça, je vous ai dit à temps de la fin.
Je sais pas s'il a compris, il a pas compris.
Non, si j'ai compris.
Tous les slach lanu de ma vie montent.
Ça te laisse indifférent, c'est pas possible.
Ça veut dire quoi? C'est très fort comme idée.
Ça, c'est le troisième.
Moi, quand j'ai vu ce concept, j'étais...
Ah, c'est évident.
Plus que ça. Plus que ça. J'allais plus loin que ça.
C'est séduisant. Et chaque fois que j'en fais un qui est de meilleure qualité, il emporte les autres.
Exactement. Et si par exemple demain.
C'est qu'une plus-value.
Et si le surlendemain, je veux refaire slachlanou et je vais découvrir un nouveau mot dans le slachlanou. Ah, mechol, lanou, quelle différence entre slach et mechol. Tout, et ben, ce nouveau détail-là, il va prendre avec lui. Les, voilà. Il va prendre avec lui toutes les tuettes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ah. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure. Que faire une mitzvah troisième. Que le troisième, en vérité, celui qui fait une mitzvah sans aucune raison. En vérité.
Il faut qu'il fasse teshuvah.
C'est beaucoup mieux que le quatrième. Parce que lui, non, il n'a pas besoin de faire teshuvah. Il suffit qu'il refasse la même mitzvah avec une kavana.
Et
pac.
Ah oui.
Il embarque.
C'est comme mitzvah positive. Il suffit de la faire bien et on est pardonné de.
Donc qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui?
D'accord, et qu'est-ce qui se passe pour le quatrième?
Donc,
alors
je vais juste résumer ce qu'on a expliqué dans le chapitre 39. Chapitre 39, on a fini le chapitre 39, on a développé le concept des quatre mondes. Atzilut, Bria, Yetzira,
Asiya.
Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Tu es Yaakov. On a expliqué le concept des quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Bon, alors directement, Admor HaZaken, il a dit Atzilut, on n'en parle pas. Parce qu'Atzilut,
c'est les grands tzadikim.
Très bien. Donc on va parler que des trois derniers. Les trois derniers. Il y a ceux qui montent au deuxième niveau, ceux qui sont au premier et ceux qui restent au rez-de-chaussée. Ceux qui montent au deuxième niveau, c'est qui? C'est ceux qui ont eu la kavana, on a dit analyser. C'est-à-dire quoi analyser? Ça veut dire une kavana réfléchie. Que constamment, quand il est en train de servir Dieu, c'est comme s'il est dans un champ miné. La kavana vécue.
Il vit le truc.
La kavana réelle.
Ressenti.
Moi j'aime bien le mot réel. Parce que ça veut dire que c'est du réel, c'est pas Ahmadinejad qui peut m'attacher. C'est du réel, je le sens. Il y a une mine qui est devant moi. Il y a une mine qui est devant moi. Ça c'est ceux qui montent au deuxième étage.
La kavana réalité.
Réalité.
Kavana, on va dire Kavana éloigné, d'accord, ouais. Kavana éloigné, ça c'est le premier étage, ça c'est quand je fais une mitzvah, je sais que je fais pour Dieu, mais c'est au fond de moi, je sais que si je fais une avéra, c'est très grave, mais je le sens pas, j'ai pas peur, je tremble pas, au fond de moi, je sais, c'est déjà pas mal, c'est déjà super ça, c'est déjà pas mal, quand je fais la mida, et je sais que maintenant, normalement, je devrais être en train de sentir, mais je sais, je suis dans le coup quand même, c'est dans ma tête, mais bon, c'est déjà pas mal, ça c'est Kavana au premier étage, il y a la Kavana qui est, il y a sans Kavana du tout, quand on est au rez-de-chaussée. Et là, dans le rez-de-chaussée, on a deux catégories de rez-de-chaussée.
Et on a le sous-sol.
Ah oui, t'as deux.
Non, il n'y a pas le sous-sol. Il y a le rez-de-chaussée dans lequel le fil a été coupé. Le fil de l'ascenseur a été coupé. Alors là, on te dit, il suffit qu'il y ait un autre ascenseur qui vient. Et tout de suite, un effet de semi-remorque, d'accord? Et les ascenseurs, ils sont très très forts. C'est-à-dire, ils peuvent prendre avec eux des milliers d'ascenseurs. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils veulent prendre toute la midate avec eux. Pas de problème. Ça c'est pas mal, ça c'est la troisième catégorie.
Quatrième
catégorie. C'est celui qui fait une mitzvah pour une cavale, par intérêt. Et là, à ce moment-là, puisque l'intérêt ne vient pas de la Kedusha, l'intérêt est une glue qui l'attache en bas. Et la seule manière que cette mitzvah remonte en haut, c'est quand on va faire une teshuvah. Alors, on a eu quand même un encouragement, dans le bon sens, d'accord? C'est qu'on a dit que, de toutes les façons, on finira toujours par faire teshuvah. Que ce soit dans mon glue ou que ce soit dans le
glue ou dans l'autre.
Non, mais vous comprenez qu'il faut éviter d'être dans la quatrième catégorie. La troisième, ça nous arrive, bon, ça va, ça nous a consolé au moins. C'est-à-dire comme ça, je me dis au moins que si demain, c'est jamais trop tard, si demain, il suffit que demain je fais l'amida avec Kavana, et toutes les amidas vont être prises. C'est bien. Encourageant, ça.
On essaie d'en faire...
C'est pas, c'est-à-dire quand par exemple, Rosh Hashanah, je fais une amida avec Kavana...
Ouais, mais c'est pas les mêmes prières. On est grillés.
Ah, mais c'est pour tous les Rosh Hashanah.
Bon,
oui, pour tous les Rosh Hashanah.
C'est le Rosh Hashanah.
C'est
très fort. C'est-à-dire que chaque Kavana, c'est-à-dire que si j'ai pris une nouvelle Kavana maintenant, demain, toutes les kavanas de 28 ans de mon existence, elles montent avec. Très très fort.
Quel koar.
D'où il le sait ça?
Zohar. Moi j'ai Ketouvé Zohar. Tu veux la référence? Zohar Khelek Bed, Resh Meme Amoud Bed.
28 koar.
Voilà. Donc avec ça on a conclu. Avec ça on a. Je sais pas, moi j'ai la page. Hein.
Il a pas la paracha, il parle.
Avec ça on a conclu le Ferek, le Metet et le concept des quatre mondes. Enfin, on s'est focalisé que sur les trois mondes maintenant.
Finalement, vaut mieux que ce soit la dernière fila qu'on fasse parce qu'il n'y aura plus rien à rattraper. Parce que imagine que tu as rattrapé le d'avant, mais qu'après tu repars dans tes travers.
Non, c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit que, par exemple, aujourd'hui je vais faire une kavana, mais demain je vais trouver encore un autre détail. Et chaque fois que je trouve quelque chose de nouveau, il prend avec lui tout ce qu'il y avait avant.
D'accord, mais imagine que tu ne trouves pas derrière pendant des années.
Toujours, sans fin. Bon. Hey, c'est comme la Torah.
Il va racheter un iPhone.
Voilà. Ça s'arrête ici pour aujourd'hui. Perek Lamed. Donc Perek Mem, c'est une suite directe du Perek Lamed Tet. Quand on arrivera à la fin du Perek Mem, qui sera, je vous cache pas,
il y a une accélération en ce moment,
qui sera un peu plus compliqué que le Perek Lamed Tet. Bezrat Hashem, on aura résumé sur papier.
Voilà.
Un petit peu.